Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier épisode hors série de Culture au Trip. Donc du coup c'est un nouveau format court qu'on a décidé de vous proposer, une démarche tout à fait égoïste puisque on va essayer de combler notre frustration de ne jamais avoir l'occasion de pouvoir parler des œuvres qu'on aime vraiment à part en ayant à couper la parole à nos invités. Donc pour ces épisodes, il va y avoir à chaque fois une thématique et on va vous présenter à chaque fois, l'un après l'autre, une œuvre qui nous aura particulièrement marqué. Et la thématique de ce premier épisode sera les séries. Générique ?
Générique.
Et je vais donc donner en premier la parole à Matt Dar, parce que c'est un peu moi le maître de cérémonie, un rôle que je m'auto-attribue. On est beaucoup dans l'auto-attribution aujourd'hui.
On est un peu tout perdu quand on n'a pas d'invité, mais je prends la parole avec plaisir, Sylvain. Alors, on va vous parler tous les trois de séries qui nous ont marquées, de séries qui ont été importantes pour nous. Et moi, pour ce faire, j'ai envie de vous parler de South Park, qui est une série d'animation pour adultes américaine, qui a débuté en 1994 et qui a dû arriver en France pas longtemps après, dans la foulée, et qui, en tout cas, moi, j'ai découvert, pas via la série, mais via l'imagerie de South Park. Puisque quand j'étais gamin, ça avait beaucoup de succès, et il y avait notamment une housse de couette que j'avais vue sur le catalogue de la Redoute avec les enfants qui voient Kenny. Pour ceux qui ne le savent pas, Kenny était un personnage de South Park qui passait tous les épisodes à mourir.
Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny!
Espèce d'enfoiré, revenez tout de suite!
Hé, regardez, je crois que Kenny n'a rien.
Et c'était une housse de couette avec Kenny empalé par la tête sur un drapeau des États-Unis. Et j'avais quémandé à ma mère d'avoir cette housse de couette et elle m'avait répondu non, puisque c'est un dessin animé que tu ne connais même pas et que tu n'aimeras plus dans quelques années, donc je ne t'offrirai pas cette housse de couette. Eh bien, figurez-vous que j'aime toujours autant South Park et que je serais ravi d'avoir cette housse de couette.
Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. De South Park et j'oublie toutes mes galères.
Y'a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée.
J'aille la route pour South Park histoire de me calmer les nerfs. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes.
J'ai découvert South Park, j'ai commencé à regarder South Park après des vacances dans le sud avec mes parents ou un gamin de mon âge à l'époque, je sais plus. On devait avoir 8 ou 9 ans, je pense, on n'était vraiment pas vieux, jouait avec son petit frère à Shoot dans le bébé, qui était le jeu préféré de Kyle et de son petit frère Ike. Bon, il ne lui shootait pas vraiment dedans, mais en tout cas, il mimait la situation. Et donc, cet enfant-là, qui avait le droit de regarder South Park, malgré la vulgarité et tout le bashing qu'il pouvait y avoir autour de cette série et que les enfants ne devaient pas regarder, j'ai eu le droit à mon DVD du film South Park en rentrant de vacances. Et j'ai pu découvrir avec ma mère Satan faire des coïts à Saddam Hussein, par exemple, ou des hordes de pétomanes en fureur faire la guerre. Un moment délicieux partagé avec ma mère à ce moment-là. J'ai ensuite forcément pu avoir accès aux épisodes, en y regarder un peu de manière disparate, des épisodes spéciaux que j'arrivais à trouver en ligne, principalement en ligne puisque j'avais pas accès aux chaînes de télé qui les diffusaient, mais South Park a été un vrai électrochoc politique pour moi, parce que malgré la vulgarité, la grossièreté qu'il peut y avoir dans la série, c'est vraiment en fond une série profondément engagée et qui ne prend quasiment... Enfin, qui prend parti pour ce en quoi il croit. Et moi, ça m'a toujours beaucoup parlé, ce côté complètement irrévérencieux et tout en étant avec une vraie valeur politique. Aussi bien que plus tard, j'en suis venu à la fin de mes études à écrire mon mémoire sur South Park, à faire gratter 90 pages de mémoire sur comment est-ce qu'ils écrivent leurs scénarios. Et la richesse de ces scénarios se trouve dans l'urgence avec laquelle ils les écrivent, puisqu'ils écrivent leurs scénarios une semaine avant la diffusion de l'épisode. Et donc ils écrivent en même temps que l'épisode est produit. Et je trouve ça fascinant de pouvoir réagir sur des faits d'actualité seulement avec leur verve, seulement avec comment eux ils réagissent dessus, avec leurs émotions et leur regard complètement impertinent sur la société américaine et le monde qui nous entoure. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Je regarde toujours avec autant de plaisir South Park. Je suis toujours tous les projets annexes qu'il y a, les jeux vidéo, les mini-films qu'ils ont pu faire à côté, tout ce qui est... tout l'univers de Trey Parker et Matt Stone, les deux créateurs que je trouve... absolument géniaux dans leur folie et leur envie de bouleverser le monde dans lequel on vit. Donc South Park, c'est la série, je pense, la plus marquante de ma vie, que ce soit du côté politique, du côté humoristique, du côté l'envie de proposer quelque chose de complètement alternatif.
Merci. Et du coup, moi j'ai une question qui me brûle. Si tu étais un personnage de South Park, tu serais... Faut pas réfléchir, faut y aller, répondre, maintenant, tout de suite.
Oh putain, serviette ski, certainement.
Bien sûr, drogué.
Voilà, c'était mon petit encart sur mon amour de South Park et comment je l'ai découvert. Et je vais donc passer la parole à Jules.
Salut. Moi, une série qui m'a marqué, c'est Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, c'est une série FX qui a été développée par Kurt Sutter, qui dure 7 saisons et qui est diffusée entre 2008 et 2014, même si aujourd'hui il existe un spin-off qui, je sais pas s'il est terminé ou s'il continue, mais qui est pas très bien. Sons of Anarchy, en gros, c'est l'histoire d'un gang de bikers dans une petite ville qui s'appelle Charming et qui est pas du tout charmante parce qu'on a l'impression qu'il y a un gang tous les coins de rue, ça se tire dessus dans tous les sens. Il y a des nazis, il y a des mexicains, il y a des blacks, il y en a pour tous les goûts, c'est assez trashos. Mais c'est pas forcément ça qui m'a marqué dans cette série. Ce qui m'a marqué... c'est que j'ai découvert cette série un peu comme Matt Dar avec South Park, avec un interdit. Je voyais ça passer le soir en deuxième partie de série sur M6, je suppose, tout en n'ayant pas forcément le droit d'y regarder, puisque de toute manière j'avais pas vraiment la télé ou c'était chez des gens et on faisait autre chose, quoi. Jusqu'au jour où j'ai découvert le téléchargement illégal, et là, bam, c'était parti, cette série, j'ai décidé que c'était la mienne, et je me suis lancé dedans. All alone, God takes your soul, you're on your own, a crow flies straight, a perfect line. Gotta look this life in the eye. Et c'était super surtout pour les trois personnages principaux, Jackson Taylor, le prince héritier de ce gang qui essaye à tout prix de le faire sortir de la violence, tout en finalement ne faisant que des mauvais choix et en l'entraînant toujours plus dans une spirale de violence. et sa mère et son beau-père, donc joués respectivement par Katie Seagal, la femme du créateur de la série, et par Ron Perlman, inoubliable Hellboy, dont on parlera plus tard dans un autre épisode, qui eux, en fait, sont des pourritures. Et en fait, la série commence et on se dit, ok, Jackson Taylor, le personnage principal, c'est la lumière au milieu d'un monde de pourriture. Et plus la série avance, plus il est pourri comme eux. Et plus on devrait détester ces personnages, plus on les aime. Et c'est assez étrange comme série et comme du coup sentiment de se dire que ces gens qu'on devrait haïr, ce sont des assassins, des violeurs, des trafiquants de drogue, des... Il y a tout, des cannibales, enfin on a la totale, hein, on a un bon mash-up de personnages horribles. En vivant leur quotidien et leur petite galère, leur tracas du quotidien. Ah mais oui, mais lui, il mange des gens, mais il a une fille, il a un cœur, ça va pas, machin. Et bah, on se met à les aimer et à presque regretter quand ils meurent, alors que, bah, en fait, on devrait pas. Du coup, ça nous met bien en face de nos propres contradictions. Surtout quand bah du coup on le découvre à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte et qu'on se pose des questions sur qui on est. Il paraît que la série est écrite à la manière de je me rappelle plus, c'est Hamlet, si, de Hamlet de Shakespeare, que c'est une reprise moderne de Hamlet. Effectivement, on y retrouve du roi lion avec ce beau-père à tuer pour récupérer le trône, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait en premier lieu, c'était l'imagerie des gros bikers barbus badass avant de rencontrer effectivement toute leur psyché un peu compliquée. Et cette fin, c'est cette fin de série peut-être qui m'a le plus marqué, puisqu'il y a d'autres séries qui m'ont marqué, mais j'ai sélectionné celle-là pour sa fin, où on a vraiment l'impression d'avoir accompagné des personnages tout du long et de pas s'être fait voler notre fin de série ou notre fin de personnage, comme dans d'autres séries qui nous ont accompagnés pendant des années et des années. Lost, par exemple, Game of Thrones, pour ceux qui ont aimé Game of Thrones. Là, dans Sons of Anarchy, à la fin de la série, on est KO et on se dit que... Ah, putain, ok, j'ai vu un truc qui se tenait du début à la fin, où le mec savait où il allait du début à la fin. Et c'est à pas mettre entre toutes les mains, mais c'est une excellente série.
I guess you had another vote I wasn't privy to.
Yeah, we did. This time it was unanimous.
Fair enough. Let's go.
Alors moi j'aurais une question. Si tu étais une saison de Sons of Anarchy, ne réfléchis pas, dis-le.
Je serais la saison 3, parce que la saison 3, ils vont en Irlande, et du coup, le générique, le meilleur générique de toutes les séries du monde, c'est la même chanson, mais avec de la cornemuse derrière, et c'est
putain. On adore la cornemuse.
Et il y a Lyra. On adore détester Lyra et les adorer en même temps. Voilà.
Et moi aussi, juste rapidement, quand tu dis que ça t'a mis face à tes contradictions et que t'étais en pleine quête d'identité, je voulais quand même m'assurer, ça t'a permis de sortir de tes envies de cannibalisme ou
Non, mais en plus, je parle de cannibalisme, mais je sais même pas s'il y a vraiment du cannibalisme. Il y a un personnage qui est toujours un peu border, qui s'appelle Tiggs. Et en fait, c'est un personnage qui est détestable en tout point, vraiment. Mais en fait, qui a toujours des petits moments, il est hyper marrant. Il est proche des animaux alors que c'est une crevure avec les humains, enfin. Et en fait tu te dis, ah mais putain je l'aime bien, ah non meurs pas, ah ah, et c'est super. Et non, je suis pas cannibale.
Pas encore.
Ouf.
Et du coup je vais passer la parole à Sylvain qui va nous parler de sa série.
Moi je vais vous parler de Six Feet Under, une série créée par Alan Ball qui a démarré en 2001.
Thank you.
Donc mon histoire avec cette série a commencé il y a bien longtemps, parce que j'avais 19 ans. J'étais jeune étudiant et je travaillais à la boutique d'un monument historique. C'est une de mes collègues guides, une grande dame de 27 ans que j'admirais beaucoup, qui m'en a parlé pour la première fois. Donc pour vous replacer le contexte, on est au milieu des années 2000 et c'est le tout début de l'âge d'or des séries. Je n'ai alors à mon actif que Lost et Sex and the City. Et là je découvre, avec les histoires de la famille Fisher, que l'on peut attendre beaucoup de ce format, en termes de profondeur scénaristique et de développement de personnages, mais aussi en termes de sujets abordés. On va parler là de deuil, beaucoup, forcément, j'y reviendrai, mais aussi notamment de dépression, de difficultés à trouver sa place, à définir son identité, à construire des relations. Et notamment de relations homosexuelles, sujet qui est traité sans la fausse pudeur habituelle de l'époque. Moi, il me semble que c'était la première fois que je voyais deux hommes s'embrasser à pleine bouche à l'écran. Et j'ai appris d'ailleurs par la suite que cette série avait été la première relativement grand public à le faire. Donc voilà, une série finalement assez novatrice. Et du coup, avec ça, tout a un peu changé pour moi. Mon niveau d'exigence était fixé. Et du coup, suite à cela, je me suis émergé dans tout le catalogue HBO qui n'a cessé au fil des années de m'épater jusqu'à une certaine histoire de dragon. On ne mentionnera pas plus. Donc, pour vous présenter en deux mots, Six Feet Under, ça raconte la vie de la famille Fisher, qui tient une maison funéraire à Los Angeles. En d'autres termes, c'est donc une famille de croque-morts. Le premier épisode démarre, comme chaque épisode d'ailleurs ensuite, par une mort, celle du père, qui est percuté au volant de son corbillard par un bus. Et à partir de là, Nate, le grand frère, revient de Seattle, puis finit par rester pour tenir la boutique aux côtés de son frère David, qui vit son homosexualité en secret. La famille est aussi composée de la petite sœur Claire, lycéenne marginale et déboussolée, et de la mère Ruth, emprisonnée dans son rôle de maîtresse de maison. On rencontre également Rico, artiste restaurateur de cadavres de génie, mais aussi Brenda, amante de Nate, ancienne enfant surdouée qui a du mal à gérer sa propre intelligence et ses relations.
Scared. What's gonna happen to me now?
Well, that's not my problem, pal.
What? I was so young. Why me?
Well, why the fuck not you? What did you think? You were immune to this? Everybody dies. Everybody. What makes you so fucking special?
Et on va donc suivre tout ce beau monde au fil de 5 saisons à lutter pour trouver le bonheur. Chaque épisode démarre donc par la mort de la personne dont ils vont s'occuper durant l'épisode, et qui va ensuite donner le ton, en quelque sorte, de l'histoire qui va être racontée dans cet épisode. Cette forme d'intro d'apparence morbide va en fait souvent révéler ce qui rend cette série exaltante, malgré sa dimension hautement dépressive, avec des sujets qu'elle aborde, c'est du coup son humour. Un humour à froid, forcément un peu noir, puisque dans ces intros, on va souvent jouer avec le spectateur pour l'amener à se demander ce qui va bien pouvoir se passer et qui va bien y passer, et surtout dans quelles circonstances, et des circonstances parfois et souvent cocasses. On peut citer aussi beaucoup de mises en scène de réactions dans les situations de malaise extrême, où les personnages explosent ou se mettent à chanter pour revenir en fait à la réalité où ils sont restés impassibles. Donc c'est notamment par ce genre de procédé que l'on se retrouve au cœur de l'intimité de ces personnages et de tous leurs conflits internes, qu'ils nous touchent, qu'on les aime et qu'on se sent appartenir à cette famille dysfonctionnelle. Donc je crois que je l'ai regardé 3 fois en tout, tellement j'ai eu de plaisir à chaque fois à les retrouver, et j'ai chialé sur le final les 3 fois, parce que c'est à mes yeux la plus belle conclusion de série qui soit. Voilà, je crois que le débat est lancé.
Je suis Team Sylvain.
J'en étais sûr.
T'as pas vu ça,
oui. Homme de goût.
Moi, je vais peut-être ouvrir sur une question un peu plus globale. Parce que nos 3 exemples, c'est ça, de séries qui nous ont marqués, c'est des séries qu'on n'a pas binge-watchées, qu'on a découvert épisode par épisode, semaine par semaine. Ou toi, t'as vu tout d'un coup?
Non, moi j'étais déjà dans l'illégalité quand j'ai regardé.
Moi Six Feet Under. Ah non, on parle de, pas des séries des autres, bah, on parle de nos séries à nous.
Bah,
Moi j'étais un enfant de prolétaire, donc j'avais pas Canal+, donc j'ai été obligé de tomber dans l'illégalité.
Moi aussi beaucoup.
Moi j'avais pas la télé, donc encore plus prolétaire.
Moi je tenais quand même à dire que, alors effectivement je n'ai pas regardé Sons of Anarchy, mais Six Feet Under est pour moi ma série préférée, vraiment la série qui me touche le plus, donc je suis ravi que Sylvain en parle, parce que d'une part il en a très bien parlé.
Oh, arrête.
Et en plus, c'est vraiment une série formidable et que moi aussi j'ai vu 3 fois et devant laquelle j'ai pleuré 1 milliard de fois. Mais pour ce qui est de South Park, étant donné que c'est une série très longue qui a débuté en 94 et qui est toujours en activité, il y a certaines saisons que j'ai binge-watché, d'autres saisons que j'ai regardé épisode par épisode, ça dépend des périodes. Et il y a certaines saisons que j'ai dû voir peut-être une dizaine de fois à force de rewatch, de gloutonnerie.
Parce que moi, en écrivant mes notes, là, je me suis dit qu'il n'y a aucune série depuis que je binge-watch des séries qui me restera autant qu'une série que je travaille sur le long cours pendant des années, épisode semaine par semaine, et que je peux mûrir, en fait. Enfin,
oui, on grandit différemment avec les personnages, ouais, effectivement. Mais il y a des séries qui sont plus dures à binge-watcher. Moi, par exemple, Six Feet Under, je trouve pas que ce soit une série qui soit facile à binge-watcher. Je pourrais pas me faire une saison en une nocturne, quoi.
Ah oui, non. Moi quand je dis binge-watcher, moi c'est sur une saison en une semaine. Hein.
Oui, voilà. Bon, c'est ce qui est déjà gourmand, mais.
Oui, ça fait.
Et du coup, je vais vous proposer pour conclure l'épisode, et puis si ça vous va pas, de couper.
Allez, c'est parti.
Non, vous vouliez là en juste en donnant un titre, rajouter une série qui vous a marqué autre que celle que vous avez dit.
Facile, Fleabag.
Fleabag.
Moi, j'aurais envie de dire, bon, puisque j'ai déjà dit que Six Feet Under était ma série préférée, je veux pas sortir Six Feet Under.
Il se prend un joker direct.
Une autre série qui m'a marqué. J'aurais envie de dire Over the Garden Wall, qui est une autre série d'animation, mais jeunesse cette fois-ci, très courte, d'une saison, et si on met les épisodes bout à bout, elle doit durer même pas 2 heures, et qui est en fait une sorte d'Alice au Pays des Merveilles, avec 2 enfants qui, le soir d'Halloween, se retrouvent derrière le mur du jardin, et qui partent dans un univers fantasmagorique, musical, splendide, qui m'a touché droit au cœur.
On avait dit juste un titre. Mais
oups bon, je me couperai.
Eh ben, moi, je vais me donner la parole et je vais dire Samurai Champloo ou The Shield, du même scénariste que Sons of Anarchy.
Donc, du coup, voilà. Personne respecte les règles à sa façon.
Bah non, on est notre propre maître. on vous remercie pour l'écoute du premier épisode de ce hors-série.
Merci.
Allez, c'est toi qui fais
merci,
la conclusion, t'as fait l'intro, donc fais la conclusion, Sylvain.
Merci à toutes et tous, à la semaine prochaine.
Gros bisous.